bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, une émission sur les idées reçues, sur l'Europe avec Tania Rachaud. L'émission est réalisée par Leobardo Arango en partenariat avec Les Surligneurs, Amicus Radio et l'Observatoire du Green Deal.
L'Europe, l'Europe, l'Europe!
Justement parce que Objection Votre Europe va s'arrêter sur la question du Green Deal grâce aux étudiantes de l'Université Paris-Saclay. Dans cette série spéciale Objection Votre Europe Green Deal, eh bien, nous allons discuter du pacte vert européen qui a été adopté en 2019 et qui, depuis, eh bien, explore de nombreux sujets liés à l'environnement. Et on a pensé qu'il serait intéressant d'en faire plusieurs podcasts avec les étudiantes. Et dans cet épisode, ce sont donc Noémie Demoura, Léna Rouan, Rachel Le Bihan et Héloïse Hernandez-Torisson qui vont traiter le sujet du Green Deal et de la biodiversité pour parler bien des réformes, de l'impact de ce Green Deal sur la PAC, la politique agricole commune, mais aussi de la déforestation et des océans.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
And therefore, a building block, a crucial building block of our European Green Deal will be in 2020 the proposal of the very first European climate law. It will set clear rules so that investors and innovators can plan their long-term investment. It will make the transition towards climate neutrality accountable and reliable.
Bonjour à toutes et à tous. Pour bien comprendre l'ampleur du sujet qui nous occupe aujourd'hui, il faut se replacer dans le contexte de décembre 2019. À cette période, une nouvelle Commission européenne entre en fonction avec une promesse audacieuse. En effet, Ursula von der Leyen montre à la tribune du Parlement européen et déclare que le pacte vert est le moment homme sur la lune de l'Europe. L'ambition est alors totale. Transformer l'Union en une économie moderne, efficace dans l'utilisation des ressources et surtout neutre pour le climat d'ici 2050. Mais, au-delà des grands discours de Bruxelles, il y a une critique qui revient tout le temps. C'est l'idée que le Green Deal ne serait qu'une immense montagne de papier. Au fond, est-ce qu'on n'est pas juste face à des promesses politiques et du soft law qui n'ont aucune prise sur la réalité? C'est ce qu'on va essayer de vérifier aujourd'hui.
C'est ici que notre regard de juriste intervient. Contrairement aux idées reçues, le Green Deal n'est pas qu'un simple slogan marketing. En tant qu'étudiante à Paris-Saclay, nous avons en effet observé une mutation profonde de l'ordre juridique européen. Nous sommes passés d'un droit de l'environnement décoratif, celui qui servait de variable d'ajustement, à un droit systémique. Le cœur de cette révolution, c'est l'activation sans précédent du principe d'intégration de l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dit TFUE. Cet article dispose que les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques de l'Union. Ce qui n'était qu'un idéal est ainsi devenu, en 5 ans, une véritable obligation juridique.
Évidemment, cette irruption du vivant dans le droit dur a bousculé l'ordre juridique européen. Nous avons observé la judiciarisation de la biodiversité s'inviter dans les règlements budgétaires de l'agriculture, dans les codes des douanes et jusque dans les coordonnées GPS des parcelles forestières à l'autre bout du monde. Mais au fil du temps, l'enthousiasme des débuts s'est heurté à une série de crises mondiales, passant du Covid-19 à la guerre en Ukraine et à une crise énergétique qui a remis la question de la compétitivité industrielle au centre des débats. La question de l'effectivité est alors devenue centrale dans ce bilan. Est-ce que le droit européen est réellement parvenu à transformer le marché en bouclier pour la nature, ou s'est-il simplement brisé face aux réalités économiques et sociales ?
C'est précisément là que se situe le cœur de notre débat. La question est de savoir si le Green Deal a instauré un cadre juridique réellement contraignant pour protéger le vivant, ou s'il s'agit d'un édifice fragile que les crises politiques actuelles pourraient remettre en cause. Pour analyser cette situation, nous examinerons d'abord la portée des nouveaux instruments législatifs européens, avant d'aborder les limites et les résistances qui fragilisent aujourd'hui ce bilan.
Nous allons donc débuter ce podcast par la première partie, l'arsenal du Green Deal, la révolution des instruments. Entrons maintenant dans le vif de cet arsenal. Pour comprendre comment l'Union européenne a tenté de sanctuariser le vivant, il faut observer ses instruments de prédilection, le budget et le marché. Héloïse, commençons par la terre. La politique agricole commune, appelée également PAC, c'est près d'un tiers du budget européen. Mais comment le Green Deal a-t-il réussi à s'imposer dans le domaine de la PAC ?
Effectivement, c'est une véritable métamorphose de la base légale, Noémie. Avec un règlement de 2021, nous sommes passés d'une logique de droit à la subvention à une logique de rémunération du service. L'instrument phare, c'est ce que l'on appelle les éco-régimes. Pour bien saisir l'enjeu juridique, il faut comprendre que 25% des aides directes sont désormais dirigées vers des pratiques plus vertueuses. Ce n'est plus une simple option pour les États membres, c'est ce que l'on appelle une obligation de structure. Nous avons introduit ce que le droit européen appelle la conditionnalité renforcée. Pour toucher le moindre euro, l'agriculteur doit respecter des normes appelées BCAE. Donc bonnes conditions agricoles et environnementales. Cela va de la rotation des cultures à l'obligation de maintenir des infrastructures agroécologiques comme les haies ou les mares. Juridiquement, le Green Deal a transformé le budget de la PAC, donc politique agricole commune, en un outil de coercition biologique. On ne se contente plus de soutenir une activité économique, on conditionne cette survie économique à la fourniture de services écosystémiques. C'est l'application la plus directe de l'article 11 du TFUE dont nous a parlé Rachel au préalable, quand il affirme que les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. L'écologie n'est donc plus un coût, elle devient la condition incontournable de la dépense publique. C'est une révolution interne. Mais l'Union a également compris que sa responsabilité ne s'arrêtait pas à ses frontières géographiques. Rachel, tu as analysé le règlement sur la déforestation, dit RDUE, de 2023. Pourquoi cet instrument est-il considéré comme un séisme juridique mondial ?
Parce qu'avec le règlement sur la biodiversité, l'Union européenne assume enfin son rôle de puissance normative globale. Ici, l'instrument juridique n'est plus la subvention, c'est l'interdiction d'accès au marché intérieur. On utilise la force du commerce pour protéger la biodiversité planétaire. Le règlement impose une obligation de diligence raisonnée d'une précision inouïe. Les entreprises qui importent du soja, du café, du bœuf ou du bois doivent fournir des preuves géolocalisées par satellite. Si un opérateur ne peut pas prouver coordonnées GPS à l'appui, que son produit ne provient pas d'une terre déforestée après le 31 décembre 2020, son produit est interdit de vente sur le sol européen. C'est ce qu'on appelle en droit international l'extraterritorialité par le marché. L'Europe ne dicte pas les lois au Brésil ou à l'Indonésie, mais elle dit « si vous voulez mon marché, vous devez adopter mes standards ». C'est un changement de paradigme. Le droit de l'environnement devient le gendarme des chaînes de valeur mondiales. Et la traçabilité devient une condition de l'égalité commerciale. Mais pour protéger, il faut aussi savoir réparer. Léna, tu as suivi de près la loi sur la restauration de la nature. Qu'est-ce que ce texte apporte de plus par rapport aux anciennes directives ?
C'est une rupture majeure. Jusqu'ici, le droit européen, à travers notamment les directives Habitat et Oiseaux, se contentait d'une approche défensive. L'idée était surtout de sanctuariser ce qui restait de la nature pour éviter qu'il ne disparaisse. C'était une logique de conservation passive. Le règlement de 2024 change totalement la donne. On passe à une restauration active. Concrètement, les États ont désormais l'obligation juridique de remettre en état 20% de leurs zones terrestres et marines d'ici 2030. L'enjeu n'est plus seulement administratif, il est biologique. Il s'agit de redonner aux écosystèmes leur capacité à fonctionner. Pour nos océans, c'est un tournant. La loi impose de réhabiliter des habitats clés, comme les herbiers de Posidonie et les récifs coralliens, qui sont le socle de la chaîne alimentaire marine. En limitant les engins de pêche les plus destructeurs dans ces zones, on recrée les conditions nécessaires à la reproduction des espèces et à la reconstitution des populations. C'est la première fois que le vivant dispose d'un calendrier de réparation assorti de sanctions. On ne se contente plus de gérer le déclin, on ordonne légalement le retour de la biodiversité là où elle avait été évincée.
Thank you.
Vous venez d'écouter « Elegy for the Arctic » du compositeur italien Ludovico Einaudi. Une pièce interprétée face à un glacier en train de se fracturer au cœur de l'Arctique. Une musique à la fois fragile et solennelle qui nous rappelle que derrière les textes, derrière les règlements et les ambitions politiques, il y a un vivant en tension. Après avoir analysé la puissance juridique du Green Deal, il est temps maintenant de nous interroger sur sa fragilité. Car entre la norme et la réalité, il existe parfois un écart que même la meilleure architecture juridique ne suffit pas à combler. Nous allons donc étudier dans une seconde partie la fragilité de ce système. Nous voulons alors de dresser le portrait d'une Europe puissante, d'un bouclier normatif qui semble imprenable. Pourtant, notre podcast s'appelle « Objection ». Rachel, pourquoi cet arsenal, malgré sa force apparente, est-il qualifié de fragile ?
Ma première objection est d'ordre politique et systémique. C'est la réversibilité de la norme. On a en effet assisté, au début de l'année 2024, à un phénomène que nous, juristes, redoutions. Le démantèlement normatif express. Sous la pression des manifestations agricoles à travers toute l'Europe, l'Union a assoupli, en seulement quelques semaines, des règles environnementales cruciales de la PAC, comme l'obligation de jachère ou la rotation des cultures. Cela prouve une chose inquiétante. La biodiversité reste finalement toujours une variable d'ajustement. Le Green Deal n'a pas encore acquis une valeur constitutionnelle ou sacralisée dans l'ordre juridique européen. Si le droit peut être défait aussi vite qu'il a été voté dès que la tension sociale ou économique monte, alors sa force dissuasive est nulle. C'est ainsi la fragilité d'un droit de temps de paix qui s'efface devant le réalisme électoral et les crises de court terme.
J'aimerais également rappeler qu'il ne faut pas oublier le piège de la subsidiarité. C'est l'autre grande fragilité de ce bilan, puisque pour la PAC, l'Europe fixe l'ambition, mais elle délègue l'exécution aux États membres via ce que l'on appelle des plans stratégiques nationaux, aussi appelés PSN. Or, que voit-on réellement sur le terrain ? Une dilution de l'ambition bruxelloise. La Cour des comptes européenne a été très claire. De nombreux États membres ont utilisé cette marge de manœuvre pour proposer des éco-régimes qui ne changent en réalité rien aux pratiques réelles, transformant ainsi le verdissement en un simple exercice de communication budgétaire. Il y a ici une rupture manifeste du principe de coopération loyale. L'Union affiche une tête très ambitieuse, mais ses membres, au Conseil et dans les capitales, tirent tout cela vers le bas. On se retrouve avec un droit européen de façade, mais 27 réalités nationales qui vident les instruments de leur substance. C'est le risque d'un Green Deal que l'on appelle à la carte, où la biodiversité dépend en réalité du bon vouloir politique de chaque gouvernement.
Léna, tu as mentionné la restauration des océans, mais c'est peut-être ici que le décalage entre la loi et la réalité est le plus frappant.
Absolument, Noémie. C'est la fragilité de l'effectivité opérationnelle. Nous avons voté des règlements, mais nous n'avons pas créé de budget propre pour la restauration maritime, ni de police des mers européenne capable de faire respecter les interdits. Résultat, nous avons créé ce que les ONG, organisations non gouvernementales, appellent des parcs de papier. Par exemple, le droit interdit le chalutage dans une zone, mais faute de moyens de surveillance et de financement pour la transition des pêcheurs, l'activité continue. Pire encore, la loi sur la restauration de la nature comporte des clauses de sauvegarde d'une ampleur telle qu'elles ouvrent la porte à de nombreux abus. Il est en effet possible de suspendre les obligations de restauration au nom de la sécurité alimentaire ou pour favoriser le déploiement d'énergies renouvelables. Le droit de la biodiversité est ici mis en concurrence avec d'autres urgences. En réalité, le Green Deal est puissant contre les entreprises privées, mais il demeure terriblement faible contre les États qui ne veulent pas l'appliquer. Néanmoins, il convient de garder en tête que ce bilan ne repose que sur 5 années d'application, ce qui constitue un recul encore limité pour en apprécier la pleine effectivité. Reste donc à savoir si le juge européen saura faire de ses promesses écologiques une réalité juridique.
Nous arrivons alors au terme de ce bilan. Alors, que retenir de ces 5 années qui devaient être celles du moment Apollo pour l'écologie européenne ?
Le point positif, c'est l'évolution des instruments. Le vivant n'est plus une simple annexe du droit européen. Avec le règlement sur la restauration de la nature, l'Europe impose pour la première fois des objectifs chiffrés et un calendrier précis aux États membres. Ce n'est plus seulement ne pas détruire, c'est désormais réparer. De même, Le règlement sur la déforestation transforme le marché européen en filtre. La légalité d'un produit dépend désormais de son impact biologique à l'autre bout du monde. La judiciarisation de la biodiversité est devenue un droit de contrôle des flux économiques.
Cependant, la réalité du terrain tempère cet enthousiasme. L'actualité a montré que ce droit reste réversible. Sous la pression économique et sociale, des normes environnementales de la PAC, que l'on pensait acquises, ont été suspendues en quelques semaines. Au total, ce sont 80% des exigences environnementales de la PAC qui ont été simplifiées ou rendues optionnelles pour les États membres. Cela révèle une fragilité structurelle. La biodiversité demeure une priorité de temps calme. Dès qu'une crise majeure survient, qu'elle soit énergétique, géopolitique ou sociale, l'exigence écologique est la première à être assouplie.
Il y a aussi le défi de l'application. On l'a vu pour les océans, voter un texte ne suffit pas s'il n'y a ni budget dédié, ni police de l'environnement pour le faire respecter. L'enjeu des 5 prochaines années ne sera donc pas de produire de nouvelles lois, mais de garantir l'effectivité de celles qui existent déjà.
En résumé, le Green Deal a réussi sa mutation législative. Le vivant est désormais partout dans les textes. Mais sa survie réelle dépendra de la capacité des États à résister à la tentation du démantèlement normatif face aux crises futures. Le juge européen sera, à n'en pas douter, le dernier rempart de cette ambition.
Merci de nous avoir écoutés, Objection Votre Europe, spécial Green Deal. C'est fini pour aujourd'hui, on a entendu Noémie Demoura, Léna Rouen, Rachel Lebihan et Héloïse Hernandez-Torisson, étudiantes du Master 1 de droit européen de l'Université Paris-Saclay. Rendez-vous au prochain épisode. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site d'Amicus Radio, celui de l'Observatoire du Green Deal, et surtout, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.